bonjour à tous. Merci d'être venus écouter Franck Tillier qui vient nous parler de son dernier roman, de son dernier thriller paru au Fleuve Noir qui s'intitule donc Rêver. Quand vous étiez venu à cette même place l'année dernière, vous nous aviez révélé à la toute fin de la conférence les prémices de ce nouveau roman qui est un one-shot, après avoir réuni deux fois de façon successive vos deux héros, Franck Charcot et Lucienne Bell, dans Angor et Pandémia qui sort en pocket. Vous nous aviez parlé de votre sujet, de votre héroïne que vous dessinez, enfin que vous étiez en train d'écrire, puisque vous écrivez bien entendu, alors que celui-là sort, vous êtes en train déjà certainement d'écrire le suivant, on essaiera de savoir aussi. Et donc vous nous réveillez que le sujet était la narcolepsie, et l'héroïne qui était une psychocriminologue qui aidait la gendarmerie à mener des enquêtes sur des affaires d'enlèvement. Vous ne nous en aviez pas dit plus, mais ça nous avait mis en appétit. Et donc justement, comment est née vraiment l'idée, l'intrigue et le personnage d'Abigail Durnan, qui est le personnage principal féminin, qui n'est pas anodin non plus chez vous.
Ah, j'avais déjà dit tout ça l'année dernière, allez dire.
Oui, tout à fait, j'ai repris le...
Bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux. On est encore accueillis par la chaleur, encore comme l'année dernière, mais c'est bien. Le personnage, en tout cas l'idée du roman est venue par... l'envie de traiter un thème qui nous concerne encore en tant qu'êtres humains, qui est celui du sommeil cette fois-ci. J'aime toujours prendre des sujets un peu scientifiques, un peu médicaux dans mes romans. Et j'avais écrit des romans sur la mémoire, la psychiatrie, l'ADN. Et c'est vrai que le sommeil fait partie des sujets que j'ai envie de traiter. On passe quand même un tiers de notre vie à dormir. Le sommeil nous concerne tous, on dort plus ou moins bien. Donc j'ai essayé de comprendre comment tout cela pouvait fonctionner. Quand j'aborde un thème comme celui-là, qui est un gros thème, on va dire, scientifique, il faut essayer de le mettre en page, il faut trouver le moyen de le mettre en... de le raconter dans une histoire, et souvent ça passe par les personnages. Et donc il me fallait finalement un personnage qui soit capable de porter ce thème du sommeil en lui. Donc j'avais au départ... je me suis rapidement orienté vers les maladies du sommeil, parce que c'est vrai que je me suis dit, c'est ce qui m'intéresse en fait, le dysfonctionnement dans toutes mes histoires.
Les déviances.
Les déviances, quand ça marche mal finalement. Et j'ai longtemps pensé au somnambulisme, parce que le somnambulisme, il se passe quand même des choses très très étranges, de ces gens qui dorment sans vraiment dormir et qui commettent des actes sans s'en souvenir. Et puis en discutant finalement avec un spécialiste du sommeil, elle me parle de la narcolepsie, que je connaissais un peu, hein, on connaît tous plus ou moins ces personnes qui s'endorment n'importe où, n'importe quand, sans pouvoir le contrôler. Mais il y a plein de choses que je ne connaissais pas sur la narcolepsie, notamment cette incroyable capacité qu'ont les narcoleptiques de confondre l'irréel, les rêves et la réalité. C'est-à-dire que le personnage d'Abigail... à le souvenir de tout un tas de situations qui n'ont jamais existé et qui étaient juste des rêves. C'est-à-dire qu'elle a des rêves tellement puissants que ça devient des souvenirs. Et donc en tant que romancier, quand on vous parle d'une maladie qui a ces symptômes-là et d'autres, ça vous parle tout de suite. Vous imaginez rapidement le potentiel d'histoire et le potentiel du personnage que vous pouvez créer. Et voilà, donc je me suis dit, le roman est né comme ça, c'est-à-dire je me suis dit j'aurai un héros narcoleptique, en tout cas qui aura cette maladie et qui va essayer de la surmonter finalement, de vivre avec. Et c'est comme ça que c'est né autour d'un personnage, et après j'ai construit l'histoire autour en fait. Oui.
Et assez vite, elle était elle-même adjointe au métier de flic. Enfin, elle n'est pas flic elle-même, mais très vite, là aussi, s'est dessiné dans votre esprit le fait que ce soit... qu'elle aide les gendarmes à mener des enquêtes.
Oui,
c'est une psychologue qui...
Oui, c'est ça. Mais en fait, je voulais... c'est vrai que vous l'avez dit, je sortais de deux livres avec Franck Charcot et Lucienne Bell, qui sont vraiment des enquêtes très policières. Et j'avais envie de... quand j'écris des romans comme ça, de ne pas forcément avoir des policiers qui enquêtent, en fait. Et donc, je me suis dit, il faut un personnage qui soit quand même en connexion avec ce milieu-là, parce que j'aime bien, justement, qu'il y ait quand même une intrigue policière, là, en l'occurrence, des enlèvements, ce qui change un peu des meurtres qu'on retrouve toujours dans mes romans. Mais je ne voulais pas qu'elle soit gendarme ou policière. Voilà. Donc c'était, je me suis dit quel genre de métier elle peut faire pour quand même être en connexion avec cet univers-là, qui est celui de l'enquête. Et il se trouve qu'il y a ce métier qui existe réellement aujourd'hui, depuis quelques années, qui est ces gens qui sont des psychologues avec des spécialités en criminologie, et dont le rôle est en fait d'aider les gendarmes ou les policiers sur les grosses enquêtes, sur les grosses affaires criminelles difficiles à résoudre, où il y a besoin d'essayer de comprendre comment agit le criminel en fait. Et c'est vrai que là, dans Rêver, les gendarmes sont confrontés à un kidnappeur dont ils ne comprennent pas les agissements, puisqu'il a l'air de frapper aléatoirement en fait sur le territoire et avec des profils complètement différents. Même si ça reste des enfants, mais il n'y a aucun lien entre eux, tout ça. Donc les gendarmes piétinent en fait. Et elle est là pour essayer justement de rentrer dans la tête de ce criminel et d'apporter justement des éléments qui vont pouvoir les aider à cerner un profil de cet assassin. Donc voilà, elle intervient un peu de cette façon-là. Et en fait, j'ai créé deux intrigues.
Oui.
Puisque ça, c'est pour la partie, on va dire, enquête, externe en tout cas à sa propre personne. Et la deuxième intrigue que j'ai voulu créer, c'est pour mettre en valeur justement le sommeil et tout ce qui est lié. C'est un accident qu'elle a au début du roman, dans les 20 premières pages, avec son père et sa fille. C'est-à-dire qu'ils sont tous les trois en voiture. Le père veut les emmener en week-end, elle et sa fille. Et en fait, à un moment donné, ils sortent de l'autoroute. Et la dernière image qu'elle voit, c'est un arbre, la voiture qui percute un arbre. Et quand elle se réveille, on lui apprend malheureusement que sa fille et son père sont décédés. Mais surtout, elle n'a rien, en fait. C'est-à-dire qu'on la retrouve à côté de la voiture on ne comprend pas comment elle a pu réchapper à ça, puisque les experts lui disent « mais ce n'est pas possible que vous ayez réchappé ». Et donc, elle va essayer de comprendre tout ce qui a pu se passer autour de cet accident un peu étrange, puisqu'il y a tout un tas d'éléments qui vont lui faire dire, la forcer à enquêter sur cette partie-là. Donc, deux enquêtes, en fait, comme ça.
Et pour revenir à la narcolepsie, qui est quelque chose, alors je ne sais pas si dans le public où vous saviez ce qu'était cette maladie qui est rare quand même, qui touche, je crois, 20 personnes sur 100 000.
C'est assez rare,
100 000.
Mais il y a quelqu'un qui dort là-bas.
Non, je rigole. Peut-être.
Non, mais c'est une maladie très rare.
Pas en vous lisant. Pas en vous lisant, ça c'est sûr. On passe la nuit blanche, mais c'est en étant happé. Mais c'est vrai que la narcolepsie, c'est quelque chose d'assez fantasmatique. On a l'image de quelqu'un qui s'endort n'importe où, n'importe quand, c'est ça. Mais en même temps, vous en montrez toute la complexité, tout le handicap que ça peut représenter, parce que c'est une psychologue, elle aide certes sur des enquêtes, sur une enquête difficile de kidnapping, mais en même temps, ce métier, ces symptômes, alors vous parlez de cataplexie, vous parlez de vision hypnagogique, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc vous avez rencontré vous-même des narcoleptiques
Oui.
Aussi.
Oui, j'en ai rencontré un en fait, un narcoleptique. Voilà, c'était important de le rencontrer parce que pour comprendre comment fonctionnait cette maladie et comment lui vivait avec ça et comment ça s'est déclaré, comment en étant plus jeune, comment il a pu finalement surmonter cette terrible maladie. Et Abigail est très fortement inspirée de ce que lui a vécu et ressenti. Oui, alors. On peut être narcoleptique, il y a différents degrés hein, vraiment de gravité de la maladie.
Elle, c'est une narcoleptie sévère.
Sévère, oui. Elle cumule vraiment toutes les... elle est quand même bien chargée, quoi, d'habitude.
Mais elle est belle, elle est brillante, quand même. ça compense.
Et donc, elle est narcoleptique, cataplectique, ça va souvent ensemble. La cataplexie, c'est à un moment donné, les muscles lâchent, en fait, et la personne tombe, mais elle reste consciente. Donc ça peut lui arriver plusieurs fois par jour, n'importe quand. En général, c'est quand il ressent des émotions. Il va mettre la radio rire et chanson, vous écoutez, elle va rire et hop, cataplexie. Donc elle a ce symptôme-là. Et elle a aussi effectivement ce qu'on appelle les hallucinations hypnagogiques. C'est assez barbare, c'est grec. C'est quelque part des immersions de rêves dans la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, vous conduisez votre voiture, et on a tous déjà eu plus ou moins ces effets d'endormissement où on sent que voilà, qu'il est temps de s'arrêter. Et en fait, bah, les narcoleptiques n'ont pas conscience de cet état-là. Et ils vont commencer à avoir par exemple, des personnes traverser devant la route, devant leur voiture, et donc donner un grand coup de frein. En fait, ce sont des images de rêve qui viennent dans leur réalité. Et ça, c'est cette personne-là, hein, c'est la personne que j'ai rencontrée qui m'a raconté, en fait, vraiment ces éléments-là. Il me disait, par exemple, bah, quand j'avais 17-18 ans, je nage et d'un seul coup, je coule comme une brique à cause d'une cataplexie. Et heureusement qu'il y avait quelqu'un pour le remonter. Et c'était important de le rencontrer parce qu'il y a toute cette partie du passé aussi. C'est-à-dire que, au départ, il ne savait pas qu'il était narcoleptique. Comme beaucoup de maladies graves, en fait, il y avait un phénomène un peu de honte qui pesait sur lui. Parce que, bah oui, quand il s'endormait en classe, c'était plutôt, pensait que voilà que c'était un feignant, donc c'était plutôt des brimades en fait. Ou quand il tombait au sol, les gens avaient tendance à se moquer. Ah mais bouge, lève-toi, tu fais exprès. Et donc très longtemps en fait, il a gardé ça pour lui. Et donc finalement, c'était très long à diagnostiquer cette maladie, à avoir le courage d'aller voir un médecin en fait et de dire voilà j'ai ce problème là et puis finalement de diagnostiquer cette maladie. Donc c'est comme ça que j'ai construit Abigail, vraiment grâce à ces rencontres. C'est pour ça que c'est important de rencontrer les gens, parce que je lis toujours beaucoup d'ouvrages techniques, on va dire, pour écrire mes livres, mais après le ressenti, tout ça se fait par les rencontres, et ça permet de créer vraiment des personnages qui soient très réalistes.
Oui, justement, enfin, Abigail, elle est très incarnée, comme chacun de vos personnages que vous mettez en scène. Bon, on connaît bien sûr Franck Charcot et Lucienne Bell, mais voilà, on pense à Camille Thibault, on pense à des personnages comme ça qui traversent votre œuvre, et beaucoup de personnages justement féminins. Je crois que c'est important aussi de vous êtes mis dans la peau d'une femme.
Oui, c'est vrai. Pourquoi? Que c'est une femme. En fait, je me suis pas vraiment posé la question. Alors, elle est venue d'elle-même. Elle s'est imposée d'elle-même. Alors c'est toujours intéressant pour plusieurs raisons. Alors là, elle est confrontée à des milieux d'hommes déjà, c'est ça que le milieu de la gendarmerie, c'est très très masculin, et donc quand on est romancier, c'est toujours plus intéressant d'avoir quelque part cette friction en fait qui peut naître.
Son compagnon Frédéric lui-même est l'un des gendarmes qui dirige justement l'enquête sur le kidnappeur, le fameux kidnappeur.
Voilà, ouais, exactement. Alors, d'ailleurs leur histoire naît en fait dans le roman. Mais et aussi, c'était important que ce soit une femme parce que il y a sa fille en fait, c'est-à-dire que elle a élevé sa fille toute seule. Hein, c'est une mère. Et donc finalement, avec cette maladie, donc il y a l'instinct maternel que j'ai voulu mettre en avant, parce que finalement, si elle a réussi à combattre cette maladie et à continuer à vivre, c'est pour élever sa fille du mieux possible. Et donc c'était vraiment important. Que ce soit une femme pour tous ces aspects-là un peu familiaux, les liens en fait avec sa fille et aussi avec son père qu'on retrouve. Donc il y a les liens ascendants et descendants, et c'est important. Je trouvais que ça marchait mieux avec un personnage féminin.
Et donc justement le fameux kidnappeur, vous faites référence à un mythe, là aussi une sorte de conte ou d'histoire qu'on a tous en tête. Il s'agit d'une sorte de croque-mitaine moderne. Vous en faites, il a un surnom aussi. Alors l'équipe qui mène l'enquête, c'est l'équipe Merveille 51, et le surnom de ce kidnappeur, c'est Freddy, pour une raison particulière aussi, qui tient à vos propres cauchemars.
Freddy, alors toutes les personnes qui ont à peu près aux alentours de 40 ans doivent le connaître, Freddy Krueger, les griffes de la nuit, donc ce personnage créé par Wes Craven qui m'a terrorisé moi-même quand j'étais plus jeune et qui m'a fait cauchemarder vraiment. Et donc c'est vrai que je lui rends un peu hommage de par le surnom que leur donnent les gendarmes. Puisqu'en fait il s'en prend aux enfants plutôt le soir tombé, mais en fait il abandonne un épouvantail dans les bois après chaque kidnapping, fait avec les vêtements de l'enfant, et c'est lacéré de griffes comme ça. Donc il est assez horrible, hein, puisque c'est très très sadique en fait comme comportement, puisqu'on se demande on retrouve jamais les enfants, mais on retrouve ces épouvantails. Et donc les gendarmes l'ont appelé Freddy, parce que ça leur rappelle le Freddy Krueger de voilà, de, c'est en hommage au célèbre croque-mitaine qui nous a tous effrayés. Mais en plus, c'est, enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais Freddy Krueger, il avait un rapport très fort avec l'univers du sommeil, puisque
Oui.
il ne tuait jamais dans la réalité, mais il attendait que les enfants s'endorment pour aller dans leur cauchemar et les tuer à ce moment-là. Et, enfin, je trouvais l'idée géniale. Et comme le roman traite quand même du sommeil, des rêves, des cauchemars, c'est aussi pour faire ce petit clin d'œil-là. En plus, vous verrez en lisant, de toute façon.
Et justement, donc la traque de ce Freddy, de ce croque-mitaine moderne, ne va pas s'arrêter, va vraiment continuer jusqu'au bout. C'est un être insaisissable, et en même temps, dans l'accident qui a lieu au tout début du livre, vous l'avez dit, Léa et Yves, donc le père et la fille de d'Abigail, décèdent. Abigail donc est la seule survivante, elle s'en sort quasiment indemne, c'est vraiment totalement inouï, et justement elle voit, il y a une sorte de vision hypnagogique là aussi, oui. on imagine que c'est cette sorte d'hallucination qu'elle a, elle s'endort juste avant l'accident se passe, et donc elle n'a aucun souvenir de cet accident, quoi. Donc elle va aller à la recherche des traces de ce souvenir qu'elle n'a pas.
Oui, c'est j'ai voulu vraiment jouer sur cette frontière entre l'éveil et le rêve, en fait. Elle est à la frontière vraiment au moment de cet accident, puisqu'elle est en train d'être prise finalement d'être rattrapée par la narcolepsie, et donc elle est en train de s'endormir. Et elle voit des choses, elle ne sait pas si ça fait partie de ses rêves ou de la réalité. Et effectivement, le point quand même important, c'est que cet accident, qui a bien lieu, puisque de toute façon, dès le début, il y a les gendarmes qui sont là, etc., c'est qu'elle n'en a pas le souvenir, puisqu'elle s'endort, mais vraiment quelques secondes avant l'impact. Et donc voilà, ça fait aussi partie de... En permanence, dans le roman, j'essaye d'osciller comme ça entre des périodes de flou, où... En tant que lecteur, mais elle-même et tous les personnages qui s'entourent ne savent pas vraiment si ce qu'elle dit est vrai ou pas. Parce que ça fait partie aussi de cette maladie, puisqu'elle peut très bien avoir un souvenir, elle, être certaine, puisque c'est un souvenir, mais qui n'a jamais existé. Et vice-versa, on peut lui dire des choses, est-ce que c'est dans un rêve ? Il y a des périodes où elle pense être dans la réalité alors qu'elle se réveille, et vice-versa, elle pense être dans un rêve alors qu'elle est dans la réalité. Ça nous est tous déjà arrivé, plus ou moins, de se pincer, en fait. Et d'ailleurs, elle a une caractéristique, c'est que...
Oui.
On peut le dire, c'est qu'en fait, elle, se pincer, ça ne lui suffit pas, parce que... elle est incapable de dire si elle rêve ou si c'est la réalité. Et donc, elle a trouvé quand même une faille dans son subconscient. C'est que... elle s'est rendue compte que dans ses rêves, elle ne saigne jamais. Et donc, en fait, quand elle est dans une situation quand même étrange... elle va se prendre une aiguille et se piquer.
Ou une cigarette.
Oui, alors après, ça va être la phase supérieure, en fait. Mais ouais. En tout cas, au début, elle prend une aiguille et elle se pique pour voir s'il y a du sang. Et en fait, s'il y a du sang, ça veut dire, elle se dit, ah oui, mais je suis bien dans la réalité. Donc, ce qui est en train de se produire, les choses que je suis en train de découvrir sont réelles. Voilà. Alors, le seul problème, c'est que quand elle est dans un rêve, elle pense pas se piquer, quoi, puisqu'elle ne maîtrise pas. Voilà. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça qui se mettent en place. Et effectivement, après, il y a le degré supérieur où elle va commencer à y aller aux brûleurs de cigarettes, parce que les piqûres les aiguilles ne suffisent plus.
Elle dit à un moment au tout début du livre, pour la plupart des gens, le rêve s'arrête au réveil, mais pour moi, distinguer le rêve de la réalité est devenu chaque jour plus compliqué, car ces derniers temps, même éveillé, je dois me suivre en permanence que je ne dors pas.
Ouais.
Voilà, donc c'est cette...
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait... elle a des rêves qui sont... on a tous des rêves plus ou moins stupides, quand même, ou des choses complètement improbables. Mais elle, ses rêves sont très, très réalistes, en fait. Moi, j'ai fait des recherches sur les rêves et sur les contenus des rêves, etc. Quand on est dans un rêve, par exemple, si on appuie sur un interrupteur, la lumière ne s'allume pas. Ça fait partie de... mais elle, en fait, dans ses rêves, si elle appuie sur un interrupteur, ça s'allume, en fait. Et c'est ça qui est terrible. C'est parce que tout ce qu'elle fait dans la réalité... Elle se dit, je pourrais très bien être dans un rêve, parce qu'elle sait que ses rêves sont extrêmement puissants. Et donc voilà, c'est ça, d'où les aiguilles, etc. Voilà.
Mais justement, les aiguilles aussi, vous les donnez pas quelquefois aussi aux lecteurs, parce que vous confondez aussi, vous êtes un auteur retors, vous faites confondre vos lecteurs entre le rêve et la réalité, on ne sait pas si ce qu'on lit est de quel ordre, donc vous immiscez un jeu entre rêve et réalité. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'envie justement de ce côté ludique, mais en même temps vous instaurez ce sort de contrat de lecture tacite?
Oui,
chacun de vos livres.
Ça a été ludique à plusieurs niveaux. Le premier degré, on va dire, c'est le titre du roman. Rêver, donc en fait, vous voyez le titre. Ce qu'on appelle un palindrome, c'est-à-dire c'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens. Et ici, on peut même le mettre dans un miroir, puisque le R et le E finaux sont inversés, et on a exactement le même titre. Alors pourquoi? Parce qu'en fait...
Est-ce que c'est une coquetterie d'éditeur ou c'est vraiment...
Non, c'est une idée...
c'est vraiment vous.
C'est vraiment lié au roman parce que... en fait, j'ai pris un peu le... quand vous passez quand vous êtes dans cette phase d'endormissement, en fait, vous passez de la réalité finalement à l'imaginaire, de l'éveil au rêve, et vous traversez le miroir, en fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles, vous êtes dans un monde réel. Et d'un seul coup, vous traversez ce miroir et vous êtes dans un monde complètement imaginaire sans vous en rendre compte. D'où l'effet miroir du titre, en fait. Bon, c'est, on s'en fiche un peu, hein, mais ça, je me suis fait plaisir. Ouais. et après, effectivement, alors il y a une construction particulière. Je ne sais pas si c'était le sens de votre question, mais
oui.
C'est pareil, quand vous rêvez, parfois, déjà, le début, la fin, c'est très, très flou. Vous ne savez plus comment ça se passe. Parfois, on se souvient de ses rêves, on ne sait plus comment ça a démarré, on ne sait plus très bien comment ça se termine. Et parfois, c'est complètement mélangé, déstructuré. Et c'est vrai que j'ai voulu déstructurer aussi le roman de cette manière-là. C'est-à-dire que les chapitres sont plus ou moins, non pas mélangés, mais en alternance, en fait. C'est-à-dire que le roman a été construit sur deux périodes. La période de l'accident, parce qu'elle est très, très importante, qui est à fin décembre 2014. Et une période qui est en juin 2015, donc 6 mois plus tard, éloignée. Pourquoi? Parce que Abigail a subi quand même un traumatisme très fort, qui est celui de la perte à la fois de son père et de sa fille. Donc psychologiquement, elle est très, très atteinte. Et je n'avais pas envie qu'elle soit dans cet état psychologique tout le long du livre. Donc je me suis dit, je vais créer une période éloignée, où on la découvrira différente quand même, où elle commence déjà quand même à... Après 6 mois, ça reste compliqué, mais elle est plus forte. Et je voulais qu'elle soit vraiment plus forte et plus combative pour pouvoir lui faire traverser des scènes et des épreuves. Mais c'est surtout ça la raison principale. Et aussi montrer que, déjà, j'adore, c'est une espèce de jeu, effectivement. Je trouvais intéressant d'être tantôt en décembre et tantôt en juin. Et en juin, on se rend compte qu'on prend... par exemple, l'enquête existe toujours. Ils sont toujours en train de chercher ce kidnappeur. Donc on se dit, mais il s'est écoulé 6 mois. En tant que lecteur, il s'est écoulé 6 mois. Qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant 6 mois, quoi? Et donc on va essayer de combler finalement les lecteurs vont se poser des questions, vont se dire, mais pourquoi il y a tel élément-là? Donc je l'ai construit un peu de cette manière-là, déstructuré pour jouer aussi avec le suspense et avec ce qu'on sait et ce qu'on ignore, en fait. Voilà.
Au début de chaque chapitre, il y a une sorte de ligne chronologique,
oui.
Où vous situez le curseur plus ou moins vers le mois de juin ou vers le mois de décembre 2014.
Oui, c'est pour éviter aussi qu'on se perde. Dans la construction, c'est délicat, en fait, quand j'ai écrit ce livre, parce que il faut que ce soit complexe, mais pas trop. On peut avoir très bien des histoires très complexes, mais il faut qu'elles soient facilement abordables et compréhensibles. Et c'est toujours justement c'est trouver le bon curseur pour qu'on soit... qu'on prenne du plaisir et qu'on ne se prenne pas trop la tête justement avec ces histoires de saut dans le temps. Donc effectivement, il y a cette petite frise qui aide un peu le lecteur. Mais c'est pas compliqué, hein, parce que c'est, pour les personnes qui ont lu L'Anneau de Moebius, qui était un de mes romans plus anciens, c'était beaucoup plus complexe.
Voilà. Oui, L'Anneau de Moebius, c'est aussi l'envers et ce côté.
Oui,
cette
puis il y avait
les
sauts dans le temps, etc. C'était...
Oui, voilà, c'est toujours un voyage temporel, psychique que vous offrez à vos lecteurs. Mais en même temps, je l'ai lu dans la version un peu dans les épreuves, comme on dit, qu'on reçoit avant l'apparition du livre. Donc j'ai lu tout le bouquin, tandis que là, ce que les lecteurs lisent, ils vont se rendre compte à un moment qu'il y a un saut de chapitre quand même. Et ça, comment vous avez décidé ce genre de
Oui, il manque un chapitre, alors le 57.
C'est normal, hein. Vous ne venez pas le ramener.
Oui, c'est ça. Que vous verrez en lisant le livre que vous pourrez récupérer sur Internet. En fait, ce n'est pas un chapitre... Enfin, l'histoire est complète sans chapitre. En fait, les épreuves que vous avez lues, vous avez lu chapitre 56, 57, 58, 59. Et en fait, juste la numérotation a changé dans ce livre final. C'est devenu 56... 58, 59, 60, mais en fait vous avez exactement le même chapitre. Le chapitre manquant, entre guillemets, c'est un chapitre en plus que j'ai écrit entre les épreuves et cette version-là, qui apporte finalement un éclaircissement et un point de vue différent sur un moment du livre, en fait, qui est très très important. Et donc voilà, je trouvais ça aussi rigolo d'avoir cette notion, pour compléter un peu le jeu, on va dire, avec le lecteur, de... qu'il aille lui-même chercher ce chapitre dont on peut avoir le code de téléchargement dans le roman, mais tout ça c'est expliqué au début du livre, ou à la fin d'ailleurs. Donc voilà, j'ai trouvé ça rigolo et puis c'était assez original et ça correspond bien à l'univers que j'ai voulu créer autour de ce roman.
Abigail, elle-même, elle est à la recherche souvent de codes, de décryptage. Oui, oui. À un moment, elle va tomber sur un roman policier qui s'appelle La Quatrième Porte, qui est tellement réaliste que moi, j'ai cherché de suite sur ma base de données de la librairie pour savoir s'il existait, mais non, pas du tout. C'est vraiment
s'il
n'est
pas chez Mola, il est nulle part.
Non, il est totalement imaginaire, mais c'est bluffant, quoi. Quand même, vous arrivez à nous piéger.
J'aurais dû mettre un de mes autres livres, comme ça, les gens l'auraient acheté.
Peut-être.
Ah mince,
peut-être.
Mal joué, là.
Peut-être, mais c'est vrai que cette quatrième porte, c'est quand même totalement inouï d'avoir, enfin voilà, une sorte de mise en abîme là encore, de jeu de miroir qui fait que tout se dédouble.
Oui, il y a une mise en abîme, oui, mais c'est ça. J'ai trouvé ça aussi rigolo qu'il y ait un livre dans le livre finalement, parce qu'effectivement elle va lire un livre un peu, elle lit beaucoup de polar, Abigail, et en lisant un livre au hasard, elle va se rendre compte que dans ce livre il y a quelque chose qui la concerne au plus haut point. Et elle va se dire, mais c'est pas possible, quoi. Comment ça se fait Et donc, elle va essayer de remonter cette piste-là, effectivement aussi. C'est comme si vous, je sais pas, quelqu'un parmi vous lit mon roman et je parle de choses très, très, avec votre nom, votre prénom, etc., très, très personnelles. Et vous dites, mais comment. Voilà, donc elle va essayer de. Surtout que ça a rapport avec finalement, avec sa fille, etc. Donc, il va y avoir cette enquête assez intéressante aussi.
Oui, parce qu'il y a sans cesse des... Alors, sans en dire trop sur les détails, bien entendu, puisque c'est là où est le sel de l'intrigue labyrinthique que vous nous offrez. Vous êtes une sorte de Minotaure, enfin, ou de fil d'Ariane, je ne sais pas, enfin, puisque vous empruntez cette image et ce mythe, là aussi, dans Double Jeu, qui est aussi une nouvelle que vous avez écrite, il y a quelques mois. Enfin, parce que dans le cadre d'une exposition au Palais de Tokyo, vous êtes aussi nouvelliste, enfin, vous écrivez beaucoup de nouvelles, on vous sollicite beaucoup, et vous avez écrit cette nouvelle aussi par rapport à ce thème du double, du rêve, du sommeil, du miroir, et le palindrome miroir aussi, et le Minotaure. Et donc tout ça parcourt là en ce moment votre imaginaire. Est-ce que c'est une page que vous tournez,
Oui, alors c'est vrai que cette nouvelle, je l'ai écrite... en fait, je suis venu l'année dernière ici en juin.
Oui.
Et donc, je parlais déjà de rêver, j'étais déjà dedans et j'ai écrit la nouvelle en septembre-octobre, je crois. Et donc, effectivement, comme j'étais plongé dans le sujet du double, du rêve, etc., ça m'a influencé pour imaginer cette nouvelle, cette histoire pour le palais de Tokyo. Donc voilà, j'en ai profité, quoi, pour rester dans le sujet. Oui, alors ça, c'est vrai que c'était une nouvelle. Finalement, je sais pas si... Le Palais de Tokyo, c'est le musée d'art contemporain. C'est un grand musée d'art contemporain parisien. Et j'avais été contacté en juin dernier par le président du Palais de Tokyo parce qu'il avait une idée d'exposition où il voulait mettre en valeur le détail, le souci du détail qu'ont les artisans qui fabriquent leurs œuvres et leurs objets. Et il avait lu mes livres, il avait bien aimé la précision que j'apportais dans mes romans et surtout la manière de décrire les détails policiers. Et donc il me contacte, il me dit voilà, en mars prochain, je vais faire une exposition dont j'ignore complètement le contenu, mais justement c'est vous qui allez me dire ce que je dois mettre dedans. Et il voulait que ce soit autour du crime, en fait, voilà, c'est le sujet de l'exposition. Donc il m'a dit, écrivez-moi une nouvelle, une histoire courte, que, pour l'exposition, c'est-à-dire que votre histoire, moi, je vais quelque part, entre guillemets, l'adapter pour en faire une exposition. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est né le projet. J'ai imaginé une histoire qui se passe dans un... Enfin, il fallait que ce soit, que ça se passe dans des lieux quand même bien définis, regroupés, que ça mette en valeur les métiers d'artisan d'art. Donc, les deux personnages
sont... Vous aviez des
contraintes
d'écriture,
oui, il y avait
même.
Des contraintes...
Un cahier des charges.
Un petit cahier des charges qui était quand même très, très léger. Il fallait que ce soit... qu'on mette en valeur les métiers d'artisan d'art. Donc, les lieux de la nouvelle, c'est des ateliers. Ça se passe dans des ateliers... dans leur environnement de travail. Donc, en fait, finalement, ce que cette nouvelle raconte avec des mots, l'exposition la raconte avec des œuvres d'art et des décors, des objets. Et effectivement, elle est terminée. Hein, elle a eu lieu de mars à mai. Mm-hmm. Mais c'était extraordinaire parce qu'il y avait 5, je crois que c'était 5000 mètres carrés, enfin 3 ou 5000, je ne sais plus, qui étaient complètement vides 2 mois avant, en fait. Et à partir de la nouvelle et des commandes qu'ils ont fait aux artisans, ils ont construit tout un univers. Ils ont construit des pièces. C'était très très impressionnant et voilà. Mais c'était assez éphémère puisque ça a disparu et c'est remplacé par d'autres expositions aujourd'hui.
Mais est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous apporte vous en tant qu'écrivain de voir votre écriture mise en scène comme au cinéma, une sorte de...
Oui, alors mais c'était génial parce que
c'était expérience inédite.
Oui, c'était vraiment une expérience inédite. J'avais déjà, j'écris des scénarios pour la télé, donc j'ai écrit un scénario de BD d'un de mes romans qui paraîtra en BD en novembre, je crois, Puzzle. Donc j'ai écrit des choses qui se transforment en images, et là c'était vraiment mais d'écrire un texte qui se transforme en une exposition, c'était complètement nouveau. En plus, c'était l'univers de l'art contemporain, c'est pas quelque chose que je connaissais vraiment. Très très bien, donc ça m'a permis finalement ce que je faisais pour mes livres avec les recherches et de m'immerger dans un univers, ça m'a permis de le faire dans cet univers-là qui est celui des artisans, des artistes et de l'art contemporain, donc c'était une très très riche expérience. Voilà.
D'accord. Et pour en revenir donc à Rêver, vous parlez à un moment, il y a un très beau passage qui nous fait penser, parce que quand on lit votre roman, ce qu'il y a, c'est que c'est très référencé, même si vous plongez pas le lecteur dans des abîmes là aussi de références. Mais forcément, bon, on pense bien sûr au film de Wes Craven, on pense à plein de films d'horreur, quand on lit certains de vos livres, plein d'ambiances qui vous nourrissent, ou là pour Double Jeu des univers de l'art. Mais on pense bien sûr à des tableaux. Enfin, moi, j'ai pensé à des tableaux. Alors, j'ai ramené deux. Il y a un passage qui fait référence directement. C'est au tableau de Fuseli. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce tableau assez assez célèbre, qui est un peintre d'origine allemande, je crois, ou suisse, je ne sais plus, enfin allemande, qui de romantisme allemand. Et vous décrivez vraiment un moment. Vraiment, oui. ce tableau. Et j'aimerais que vous lisiez un petit passage, oui. Parce que c'était une petite demande que j'avais. Alors, je ne sais pas si vous voulez le lire sur... parce que Abigail fait des recherches donc, sur le surnaturel pour son enquête. Et à un moment, elle parle de quelque chose qui peut illustrer vraiment le tableau en question. Ou alors celui-là, qui est aussi une sorte de représentation du Orla de Maupassant, qui est souvent cité. Et donc justement ce démon à valeur de sommeil qui mange le sommeil des enfants ou de ses victimes.
Les incubes des démons mâles s'en prenaient principalement aux dormeuses et les succubes aux dormeurs. D'après l'internaute, la croyance en leur existence avait jalonné les époques de la Grèce antique à aujourd'hui. Visiblement, l'auteur y croyait dur comme fer et citait des dizaines de témoignages récents de personnes qui avaient vu et subi l'attaque de ces démons. Les mêmes symptômes revenaient sans cesse. Couchées dans leur lit, les victimes se retrouvaient dans l'impossibilité de bouger pendant que les démons arrivaient. L'une des seules façons de les combattre était de chanter un hymne juste avant de s'endormir, celui cité dans la maison hantée de l'aune plage. D'après les légendes et les croyances, ces démons apparaissent dès que leurs victimes sont rendues vulnérables par l'endormissement. Ils entrent dans leur chambre, viennent les abuser sexuellement ou alors... Regarde cet écrit-là. Ils appuient sur leur poitrine pour les étouffer. Alors, des internautes expliquent avoir vécu ce genre d'attaque. Les témoignages sont innombrables. Tu as lu le Orla de Maupassant, comme tout le monde. Écoute ce que racontait l'écrivain. Alors ça, c'est le Orla. Je sens bien que je suis couché et que je dors. Je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine. Moi, je me débats, lié par cette impuissance atroce. J'essaye, avec des efforts affreux, en haletant, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Je dis aussi, certains écrits relatent que Maupassant a vraiment vécu ce genre de choses lors de paralysie du sommeil. Il a vu les démons.
Donc justement, comment vous, est-ce que vos recherches aussi sont aussi se passent aussi dans les sources de la littérature, tout ça, est-ce que ça remonte inconsciemment ou consciemment dans votre imaginaire d'écrivain?
Bah, l'heure là, en fait, je pense qu'il y a des gens qui l'ont lu ici. Moi, c'est remonté tout de suite. C'est une nouvelle que j'avais lue quand j'étais en classe de troisième.
Oui, souvent, c'est des souvenirs scolaires.
Voilà, c'est scolaire. Et j'ai toujours eu le souvenir. Cette nouvelle m'a vraiment marqué parce qu'elle m'a effrayé. Elle a effrayé beaucoup de monde. Et voilà, j'avais le souvenir de ce buveur de sommeil. Il buvait le verre de lait, en fait, que le personnage mettait le soir. Il se réveillait le matin, il n'y avait plus de lait. Puis en la relisant là, parce que je me suis dit, je vais le relire, parce que je faisais mes recherches sur le sommeil. Et j'avais déjà fait des recherches, et je me suis dit, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Et ça, il y a peut-être des gens qui l'ont vécu, c'est quelque chose qui existe. Hein, et les narcoleptiques aussi vivent ça, peuvent vivre ça. À un moment donné, votre cerveau pense que vous dormez, donc il va paralyser tous vos muscles, dans le lit, hein, dans votre lit, mais vous êtes éveillé. Et en fait, vous... Vraiment, hein, moi j'ai parlé à des gens qui avaient vécu ça. Il y a beaucoup de personnes qui voient des images atroces arriver, et plus particulièrement des espèces de démons comme ça qui viennent et ne peuvent pas bouger. Donc c'est vraiment une sensation terrible à vivre. Et je me suis dit, Maupassant devait vraiment souffrir de ça. Et c'est pour ça qu'il a écrit cette nouvelle. Il devait avoir des paralysies du sommeil. Voilà, donc c'est... Vous voyez, de fil en aiguille, en fait, en faisant les recherches et en lisant des choses que j'avais lues, et ça mène. Ça, c'est comme ça que, en fait, je gère un peu mes recherches, et ça me donne des idées de chapitres et de trames, en fait. Ça se passe de manière un peu, ça s'auto-alimente, et c'est vrai que j'avais fait des recherches sur les incubes, les succubes, hein, qui sont les démons, voilà, féminins et masculins du sommeil, mais qui ont traversé les époques, comme je dis, parce que les paralysies du sommeil, vraiment, c'est un quelque chose qui a toujours existé. Et il y a toujours ces visions très, très troublantes que décrivent les gens, mais des gens comme vous et moi, ils n'ont aucune raison de mentir, où ils vont dire, j'ai vu un personnage monstrueux s'approcher. Ils vont le décrire et ça va ressembler à ça. Donc, c'est assez terrifiant et troublant. Voilà, donc c'est vrai que j'en joue aussi dans le roman.
Et est-ce que vos propres rêves... alors vous parliez de adolescent, vous faisiez des cauchemars parce que vous voyez des films d'horreur, vous alimentiez avec ces visions. Mais est-ce que vos rêves d'écrivain, à proprement parler, ou vos rêves personnels, vous servent aussi dans votre travail, ou est-ce que c'est vraiment deux choses cloisonnées?
Oui, non, mais pour écrire le livre.
Est-ce que vous tenez un journal de vos rêves comme Abigail?
Oui, alors je n'écris pas mes rêves, mais j'ai fait beaucoup de recherches. Ça m'intéresse, ça m'a toujours intéressé. Et je me suis beaucoup servi de mes propres sensations par rapport à mes rêves pour les retranscrire dans le personnage d'Abigail. Par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé vous êtes dans une situation, vous êtes poursuivi par un méchant dans le rêve, c'est horrible. Vous ne savez pas que vous rêvez. Et au moment où il s'en prend à vous, hop, vous vous réveillez dans votre lit et vous êtes super content. Vous dites « Ouf, c'était un cauchemar ». Et vous vous levez et puis vous ouvrez votre porte et là, il y a un autre, quelque chose d'autre qui vous agresse et vous dites « Mais oh, non ». Et en fait, vous vous réveillez une deuxième fois. C'est un rêve dans le rêve. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Mais moi, j'en ai déjà fait. Donc, c'est vraiment des sensations très, très, assez horribles. Hein, quoi, parce que vous pensez être réveillé alors que vous dormez encore. Et voilà, donc j'ai vécu ça, j'ai vécu un peu des rêves, ce qu'on appelle des rêves lucides. Alors ça, c'est extraordinaire, je vous conseille de faire des recherches là-dessus. Oui. C'est vous êtes dans un rêve, et à un moment donné, vous prenez conscience que vous rêvez. Donc vous vous dites, mais là, je suis en train de rêver. Et en fait, dans le rêve, vous pouvez prendre contrôle du rêve. Ce qui est, ils vont se dire, mais il est complètement fou. Non, c'est...
C'est possible. vous savez que vous rêvez.
Oui, vous savez que vous rêvez, et donc vous retournez, vous dites, mais c'est génial, c'est ce que, et vous avez conscience, vous dites, mais je suis en train de dormir, je suis couché dans mon lit, et en même temps, je suis ici. Il y a des spécialistes de ça, vraiment, des gens Par exemple, il y a quelqu'un qui arrive à en faire quasiment systématiquement et qui, un compositeur de musique qui ne peut composer qu'en dormant. C'est-à-dire que quand il est dans un rêve, il prend le contrôle de son rêve, il dit il faut que je trouve une radio. Donc dans son rêve, il va ouvrir un tiroir et la radio apparaît. Il allume et ça lui joue une mélodie. Et après, quand il se réveille, il a juste à noter la mélodie et ça, il compose comme ça. Il dit qu'il est incapable de composer en étant réveillé, quoi, ce qui est quand même. Et j'ai découvert cet univers-là et ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Et les narcoleptiques, d'ailleurs, font des rêves lucides depuis. Lui, il m'avait dit, mais en fait, j'en fais, mais il n'en avait pas conscience, quoi. Enfin, la personne que j'ai rencontrée, ils en font systématiquement. Et il me parlait de choses complètement démentes. On se dit, mais il est fou de me dire ça. Mais moi, comme j'avais fait mes recherches, on se comprenait, en fait. Donc, on se parlait quand même. C'était intéressant, mais. Donc voilà, c'est vraiment un univers fascinant que j'ai voulu finalement retranscrire dans ce roman.
Donc peut-être des choses qui vont réapparaître dans d'autres de vos romans plus tard, d'autres expériences
Et oui, bah oui, parce que c'est tellement.
aux lisières de la folie, parce que c'est ça aussi qui vous intéresse, quoi. C'est cette
Oui, c'est les capacités du cerveau, parce que justement, enfin, de toute façon, vous êtes tous rêvés, c'est quand même extraordinaire, la capacité du cerveau à créer des mondes comme ça, oniriques.
Qui est une vraie activité. On pense que dormir, c'est passif,
Oui,
mais en fait, on est totalement.
il y a encore énormément de mystères autour de ça, c'est-à-dire les personnes qui vont dans les centres du sommeil, déjà parce qu'elles ont des maladies du sommeil et qui sont branchées, et on voit le cerveau, alors que les personnes dorment profondément, qui est en hyperactivité. Il y a même des ondes qui sont émises pendant le sommeil, qui ne sont jamais émises pendant l'éveil. Donc il y a vraiment un univers à creuser aussi dans ce domaine. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse dans tous mes livres.
J'aimerais citer une petite phrase que vous dites qu'un de vos personnages prononce dans Double Jeu, dans votre nouvelle. Le processus créatif n'est pas simple à expliquer. Les idées sont là, entassées au milieu du labyrinthe qu'est l'esprit. De temps en temps, l'une d'elles parvient à suivre le fil d'Ariane qui l'amène à la sortie. Donc, c'est aussi un processus créatif. Ça fait partie du processus créatif aussi, le rêve pour vous.
Oui, mais vraiment, mais le rêve et
Et la complexité, le côté
le
mystérieux.
sommeil et le rêve, parce que c'est vrai que bah, c'est pareil. Des fois, vous vous réveillez, vous vous souvenez parfaitement de votre rêve, et vous avez des choses géniales qui se passent dans le rêve, ou des idées, et vous dites, mais cette idée, elle est géniale. Et des fois, vous oubliez, malheureusement, parce que les rêves sont très. Le souvenir des rêves est très furtif. Mais pourquoi? Parce que, bon, on sait tous que on utilise très peu de capacités du cerveau. Je ne sais pas, 10%, 20%, enfin après, c'est difficile à estimer, mais il y a toute cette partie inexploitée du cerveau qui, je pense, dans les rêves, s'exprime. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment un domaine à explorer. Moi, quand j'étais étudiant, par exemple, bon, j'ai fait des études scientifiques, donc on avait des gros problèmes de maths à résoudre, enfin on avait des devoirs et on calait vraiment là-dessus, en fait. C'était quasiment impossible à résoudre. J'avais des copains qui s'acharnaient le soir à essayer de résoudre. Moi, j'allais me coucher. Et puis, quand je me levais le lendemain, alors, je n'avais pas la solution. Je ne suis pas Einstein non plus. Mais en tout cas, il s'était passé quelque chose pendant le sommeil qui ouvrait de nouvelles perspectives. Parce que ça avait travaillé. Il y a plein de trucs sur l'apprentissage, plein de recherches qui ont été faites où le sommeil renforce les phases d'apprentissage. Il y a des choses qui se reconstruisent pendant le sommeil, c'est pour ça qu'on peut mourir de ne pas dormir. Hein, ça, c'est vraiment. Si vous empêchez quelqu'un de dormir pendant beaucoup de jours, là, il va d'abord devenir fou et après il va finir par mourir. Donc vraiment, c'est quelque chose de nécessaire c'est prouvé que le cerveau se reconstruit et reconstruit des parties de l'organisme. Donc c'est à ne pas négliger, surtout que j'ai fait aussi des recherches et on se rend compte que. L'évolution fait qu'on est programmé pour dormir 8 heures, hein, normalement, ce qui est la moyenne générale. Alors après, il y en a qui dorment moins ou plus, ça c'est les variations. Et qu'aujourd'hui, en fait, à cause de tout, du stress, de tous les appareils, les sollicitations, Internet, etc., on se rend compte qu'en deux générations, une ou deux générations, on dort une heure ou deux de moins. Mais ce n'est pas l'évolution qui fait qu'on dort moins, ce n'est pas un besoin évolutif, ce n'est pas la nature qui fait, bah non, 8 heures c'est trop, donc ils vont dormir 6 heures. C'est notre environnement qui prend le dessus sur la nature et donc qui nous fait dormir moins. Et donc, c'est pas bien, quoi, parce que On est fait pour dormir 8 heures, et si on dort 6 heures, il y a quelque chose qui se dérègle forcément à un moment donné. Et ça, ça fait partie des choses où la culture et la société est plus rapide que la nature elle-même. Et ça se passe de plus en plus dans beaucoup de domaines du monde qui nous entoure aujourd'hui. Donc, attention.
Écrire des thrillers et tenir en haleine vos lecteurs aussi fait partie de...
C'est moi aussi, je contribue.
Voilà, vous contribuez au fait que...
manque de sommeil des gens, malheureusement.
Voilà, tout à fait. On passe quelques délicieuses heures en votre compagnie, en compagnie d'Abigail et dans les méandres. Et juste un petit mot sur le prochain que vous êtes donc en train d'écrire et que vous finalisez peut-être.
Ah, on reproduit ce qu'on a dit la dernière.
Voilà, exactement.
Comme l'année dernière, je suis plongé dans ce sujet-là, le nouveau sujet.
Encore une déviance, une pathologie de...
Oui, alors donc je reprends les personnages de Franck Charcot, Lucienne Bell, nouvelle enquête, puisque je les ai abandonnés pour rêver. Avec, alors, non pas une déviance, mais un sujet qui est enfoui au plus profond de nous et qui nous constitue, qui est le sang. Donc le sang qui coule dans nos veines, parce que c'est pareil, c'est très très... c'est quelque chose qui est fascinant, le sang, c'est... Il existe toute une mythologie autour du sang, toute une histoire autour du sang. Et puis évidemment, tout ce qu'on peut imaginer autour de ce sujet. Alors, il y avait le sang contaminé, qu'est-ce qui se passe quand on donne notre sang, qu'est-ce que ça devient, les groupes sanguins, comment ça se passe tout ça. Donc, j'ai voulu creuser un peu ce thème, qui est vraiment pareil, c'est très, très c'est fascinant. Donc voilà, ça sera on va dire le gros sujet.
Donc vous êtes encore dans la phase de recherche là, ou vous êtes dans la phase
d'écriture? Non, j'ai commencé à écrire. Ouais, je suis dedans là, donc ils sont de retour plus. Et ça y est, l'enquête a commencé.
D'accord, on en saura plus dans quelques mois pour nous. Eh bien, merci beaucoup Franck Tillier d'avoir partagé avec nous ce moment de rêve et de thriller qui est très encore haletant et très très intéressant, passionnant de plein de points de vue et vraiment fascinant. Merci beaucoup à tous, merci à Franck d'avoir de se prêter au jeu.
Merci.